Cité Addict, votre rendez-vous santé sur Radio Cité Genève. Sophie Nicole, Gilles Miello.
Cité Addict, nouveau numéro. Bonjour Sophie Nicole.
Bonjour.
Directrice de la clinique Belmont, également psychologue. Nous allons parler de deux thématiques aujourd'hui relativement proches dans les comportements, les achats compulsifs et puis les addicts aux jeux d'argent sur Internet, au casino, à toute cette forme d'addiction concernant les jeux, comme les jeux à gratter également. Nous allons parler également avec Gérard Decrin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes systémicien. De quoi s'agit-il? Systémicien, rapidement, c'est quoi?
Systémicien, c'est une approche en thérapie de couple et de famille qui tient compte, en fait, de ce qu'on appelle un système, c'est-à-dire que la famille est un système. On regarde ici les relations entre les différentes personnes.
Sophie, voilà. Nicole, les achats compulsifs, on se doute bien de quoi ils retournent. On passe devant une vitrine et on se dit, tiens, oulala, je rentre, je ne peux pas m'empêcher. J'ai vu un petit t-shirt sympa en vitrine et puis on se dit, on n'en a pas forcément besoin et on craque, on l'achète. C'est, en gros, un petit peu ça, même si c'est caricatural.
Alors, je dirais pas que ça fonctionne exactement comme ça. C'est un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'une notion de se faire plaisir parce que voilà, on voit un petit t-shirt et qu'effectivement, on n'en a pas forcément besoin. Ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est la notion le besoin impulsif, impérieux d'achat, en fait. L'état d'excitation dans lequel la personne va se mettre en pensant à cet achat, en réfléchissant au fait qu'elle n'a absolument besoin, que vraiment sa vie ne pourrait pas se faire si elle n'avait pas cette chose. Et puis, en fait, elle va consommer de cet état d'excitation, en fait. Elle va utiliser ça un petit peu comme un effet libérateur, hein. Faut voir ça un petit peu comme si on lâchait la laisse aux chiens ou si on ouvrait la cage aux oiseaux et tout d'un coup, waouh! Elle va pouvoir s'embarquer comme ça et c'est ça sa grande difficulté, c'est qu'en fait elle obtient son plaisir qu'à travers tout ce qu'elle peut acheter de manière très rapide, très puissante et dans la quantité. Et une fois que l'achat est fait, ça se termine, l'effet s'arrête immédiatement, elle s'en fout de ce qu'elle a acheté en fait immédiatement après.
L'achat est important et ça se termine dans un tiroir finalement, c'est le fait de posséder qui est important?
Même pas de posséder, en fait, c'est le fait de pouvoir acheter. C'est l'excitation d'aller au magasin ou l'excitation de commander sur Internet, l'excitation de penser à cette chose. Mais une fois que la chose est obtenue, elle n'a plus du tout son intérêt.
Est-ce que c'est lié également à tous ces objets de désir pour lesquels, par exemple, on va se dire, tiens, je vais économiser pendant un certain nombre de mois, peut-être, ou de semaines, pour pouvoir me payer cette chose? On a tous connu ça à des degrés divers. Il y a cette excitation avant d'acquérir l'objet, parce qu'on le convoite. Et puis, effectivement, quand on l'achète, eh bien, bon, on est content de l'avoir. Mais c'est vrai que cette période avant l'achat est toujours très importante. C'est ça aussi qui distingue l'achat compulsif de l'achat, entre guillemets, normal. C'est qu'au moment où on achète l'objet, il y a tout d'un coup ce déclic où on lâche un petit peu tout.
Ça fonctionne pas de la même manière, parce que dans l'achat compulsif, comme le terme l'indique, il y a compulsion. Ça veut dire que la personne, elle va pas économiser pour s'acheter quelque chose. En fait, elle va même pas regarder si elle a les moyens d'acheter ou pas acheter. Ce qui compte pour elle, c'est acheter. C'est donc courir le magasin ou courir Internet pour regarder, effectivement, c'est l'excitation de la convoitise qu'elle recherche. C'est l'effet de l'excitation de la convoitise, en fait. Et c'est pas l'objet en lui-même. Ou alors, c'est le fantasme de ce qu'elle va pouvoir faire avec cette objet, mais ce fantasme va immédiatement s'arrêter au moment où l'objet est acquis, en fait. Donc ce qui compte pour la personne, c'est vraiment la consommation, comme on consommerait un verre de vin ou comme on consommerait une autre substance, de l'acte d'achat, en fait. C'est vraiment ça qui est recherché.
Gérard Decrin, est-ce qu'il, pour guérir de ce type de compulsion, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux acheter dans un magasin de jouets? On voit maintenant des caisses enregistreuses très très bien faites, avec même des espèces de petits outils où on peut taper son code PIN de carte de crédit. Est-ce que ça pourrait suffire? Ou est-ce que c'est vraiment encore un gros schéma?
Oui, c'est un gros schéma parce que des expériences ont été tentées à ce sujet, mais sans résultat probant.
Quel est le facteur déclenchant finalement? On a souvent évoqué beaucoup d'addictions dans des domaines différents. Qu'est-ce qui, pour l'achat, ça traduit quoi? Un manque affectif, c'est quoi?
Alors l'achat, c'est lié quand même à toute la problématique de l'argent, que ce qu'on retrouve aussi dans le jeu. Si on fait du factice, il n'y a pas l'argent vraiment. Donc la question, c'est est-ce que j'ai les moyens de maintenant me payer ceci ou cela?
Et les gens majoritairement qui souffrent d'achat compulsif ont tendance à payer comment? En cash ou de manière virtuelle, c'est important aussi peut-être pour le rapport à l'achat, à l'acte?
Alors c'est là que je dis le rapport à l'argent, c'est qu'il y a beaucoup de l'utilisation de la carte. Parce que pour beaucoup de personnes, pas forcément des addicts, la carte c'est de l'argent. Mais on n'a pas l'impression de déposer des billets de 100.
On n'a pas l'impression de dépenser.
Exactement.
C'est vraiment ça le danger, Sophie Nicole.
Il n'y a pas que ça comme aspect. Il faut savoir que les gens qui vont produire et vont développer de l'achat compulsif sont des gens qui ont finalement une vie extrêmement contrôlée, contrôlante, très enfermée comme ça. Et puis vraiment, le fait de pouvoir
acheter... Des gens maniaques ?
Pas forcément maniaques, non, mais le fait d'avoir une vie qui est très contraignante, très lourde, ou très... On a beaucoup d'obligations, beaucoup de devoirs, beaucoup de... Et finalement, l'achat compulsif, ça permet une certaine liberté, en fait. C'est un moyen de...
L'exutoire, un peu.
Exactement, de s'enfuir de sa réalité, de pouvoir s'échapper. C'est ce qu'on entend aussi dans le témoignage de Vanessa, qui explique bien, effectivement, voilà, moi je n'avais pas d'amis, je ne sortais pas, je n'avais pas de plaisir, je n'avais rien. Et finalement, le seul moyen pour ressentir quelque chose de vivant, de puissant, d'excitant, c'est les achats. Il faut savoir que chez beaucoup de gens qui pratiquent l'achat compulsif, parfois, ils vont se faire livrer les paquets ou les objets commandés chez d'autres personnes. Ils ne vont même pas les chercher, ils ne vont même pas les ouvrir. Parce qu'effectivement, ce qui est recherché, c'est vraiment le plaisir de l'excitation d'acheter, en fait.
Et pas d'ouvrir, forcément.
Pas d'ouvrir, et pas de posséder. Et l'argent n'existe pas à ce moment-là. Hein. C'est vraiment la recherche de l'excitation, de la convoitise, en fait, à ce moment-là. Cette excitation du regard, de la couleur, de l'objet. Et puis finalement, il faudrait que je l'achète dans toutes les couleurs. Et c'est ce moment-là qui est particulièrement consommé.
Vanessa, 27 ans, justement, qui souffre d'achat compulsif. On va entendre son témoignage.
Ça a commencé très tôt à l'adolescence, même un petit peu, enfin, vers 12-13 ans. J'étais très isolée, très renfermée sur moi-même. Et je me suis inventé un monde qui serait idéal dans ma tête. Et je recherchais tout ce qui m'attirait. Je l'achetais. Ça devenait une obsession. C'était comme si ça allait être... le truc magique qui allait faire que j'allais me sentir bien. Pour finir, ben, je l'achetais d'une manière ou d'une autre, par tous les moyens que je pouvais trouver. Et en fait, du coup, ben, il n'y avait jamais cette satisfaction. Donc ça restait de côté pour le jour où je... Dans ma tête, c'était pour le jour où je serais bien. Pour le jour où je serai dans cette vie bien, eh ben, j'aurai déjà tout ça. Je préparais en fait à l'avance ma vie rêvée. Et je m'immersais dans ce monde pour ne plus être dans ce qui était ma réalité en fait. Au début, je vivais chez mes parents, donc j'utilisais tout mon argent. J'avais pas de facture à payer, donc je me retrouvais pas dans des ennuis financiers. Quand j'avais plus de sous, ben, je demandais papa-maman ou... Comme j'étais assez jeune, ça passait assez bien auprès des adultes de demander un petit cadeau par-ci, par-là. Ça faisait tout mignon. On ne le voyait pas encore comme un problème. Mon propre patron, moi, je ne parlais pas anglais. Il fallait que je commande des choses en Angleterre. Je lui faisais lui téléphoner pendant les heures de travail en Angleterre pour me faire mes commandes. Et on me voyait plutôt comme une très grande fan plutôt qu'une personne souffrant d'une addiction. Je peux rentrer dans un magasin en ayant l'intention d'acheter un article que j'ai vu et en fait, tout à coup, en voir d'autres. Et puis, c'est comme si ce serait incomplet si je ne prenais pas le tout. Pour finir, ça devient du tout rien. C'est soit j'achète rien, parce que si j'achète que ce que j'avais prévu à la base, j'en ressors tout aussi déçue, ça n'a plus l'effet que ça devait avoir, ou alors j'achète tout. J'ai beaucoup de mal à faire des choix. Pour finir, c'est comme si je ne savais même pas ce que je voulais à la base, parce que je peux arriver, voir n'importe quel article, et je dis « Oh, il est trop beau, il me plaît, c'est celui-là ». Je me dirige vers la caisse, et tout à coup, je vois le même, mais dans un coloris différent. Et là, tout à coup, c'est le dilemme, où ça me prend 20 minutes. C'est vraiment une question terrible, parce que, pour finir, je ne sais pas lequel je veux, donc je finis par prendre les deux. Il y a des choses que j'ai même plus revues depuis des années. J'ai plein de choses qui n'ont jamais été ouvertes. Je parle même pas de portée, c'est qu'ils n'ont jamais été ouvertes. Des choses que j'ai à double. Pour finir, il y a beaucoup de choses que je regrette. Il y a beaucoup de choses que je regrette tout de suite après. Et il y a beaucoup de choses que je regrette quand après je me retrouve à devoir y ranger. Et que je me dis, mais je pourrais faire tellement d'autres choses. Enfin, que pour finir, ma vie tourne autour de ça. Et c'est comme si j'essayais de remplir un trou, un puits, avec du matériel, enfin des choses matérielles, plutôt qu'avec, ben, par exemple, ben, j'avais pas d'amis, j'avais pas de sortie, j'avais contact coupé avec ma famille, et tout ce vide, tout ce creux que je ressentais, ben, j'essayais de le remplir avec des choses matérielles qui pourraient m'être utiles dans ma vie rêvée, dans ma tête.
Vanessa, 27 ans, son témoignage. Sophie Nicole, est-ce que l'achat compulsif est lié, si on recherche un peu plus loin dans les relations que cette personne avait avec son entourage, et notamment sa famille proche, est-ce que ça traduit aussi un manque d'affection, la peur d'avoir dû partager avec des frères et des sœurs peut-être des choses, et on a besoin de posséder un maximum de choses? On peut traduire ça comme ça?
Pas uniquement, je pense pas, et pas particulièrement. Il faut vraiment aborder la notion d'achat compulsif comme on aborderait une dépendance à une autre substance. C'est vraiment mon plaisir, c'est dans cette excitation, dans ce moment d'excitation. On retrouve, comme le disait mon camarade tout à l'heure, on le retrouve exactement la même chose dans le jeu finalement. Ce qui compte pour le joueur, c'est pas toujours de gagner, mais c'est d'être dans l'excitation de croire qu'il va pouvoir gagner, qu'il va pouvoir se refaire. Et c'est la même chose avec l'achat compulsif, c'est le plaisir d'être dans l'action d'acheter à ce moment-là, l'excitation de la projection, l'idéalisation, le fantasme que ça provoque. Et puis l'excitation, malheureusement, est assez courte. Ce qu'il faut savoir avec la problématique de l'achat compulsif, c'est la honte. La honte et la culpabilité après, qui est extrêmement pénible, parce que, comme le dit très bien Vanessa, ben voilà, c'est des énormes dettes, c'est une situation dramatique, et puis après c'est des années à rembourser, et puis elle parle bien de tous ces endroits où on peut acheter, hein, quand elle parle de la pompe à essence, quand elle parle de ces magasins ouverts le dimanche, on est capable d'acheter vraiment des choses qui ne servent à rien du tout.
Mais pour celles et ceux qui se font livrer chez quelqu'un, comme on l'évoquait tout à l'heure, ou qui ne vont même pas ouvrir leur paquet, il y a la possibilité de pouvoir le renvoyer, si on n'est pas satisfait, on a un certain nombre de jours pour renvoyer. Non, ils ne font même pas ce genre
ils
de
le font pas parce que la honte est tellement grande qu'ils préfèrent faire l'autruche et faire comme si ça ne s'était pas passé.
Gérard Decrin, comment on se sort de ce type de situation? On va évoquer également les jeux, on en a un peu parlé, les jeux d'argent également, les jeux sur Internet. Comment on se sort de cette addiction?
Alors, je pense que cette addiction-là est particulièrement difficile. Parce que d'une part, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est l'addiction dont on ne parle pas. C'est une addiction secrète, c'est-à-dire l'alcool ça se voit, la drogue ça se voit. Le jeu, ça ne se voit pas forcément.
Bon, sauf si on passe ses nuits sur Internet avec les cernes le lendemain.
On est d'accord. Je pensais là au casino, au tactilo, à d'autres jeux de grattage. Moi, j'ai vu des couples qui ont vécu 10 ans dans le déni. Enfin, dans le déni, ça ne veut pas dire que le conjoint ou la conjointe ne savait pas, mais ils ont fait comme si. Jusqu'au moment où les dettes sont venues tellement importantes que, ben voilà, il n'y avait pas d'autre solution parce qu'il y a la justice, il y a la police. Il y a des tentatives de suicide, voilà. Et dans une recherche que j'avais faite en 2005 sur différentes addictions, le jeu, c'est-à-dire que le joueur ne se sent pas addict. Il se sent pas addict, et il y a un océan entre le monde de la thérapie et le monde de la... Enfin, pas le monde de l'addiction, mais je dirais le monde du jeu. C'est-à-dire un océan à traverser.
Le côté pervers aussi sur les jeux d'argent, c'est qu'on peut arriver à gagner quelques sommes de temps en temps. Donc à chaque fois, on se dit, il faut que je m'en sorte, mais il y a quand même cet espoir qui se concrétise aussi.
Ce que l'on a constaté dans le jeu, c'est que, effectivement, ce qui est important, ce n'est pas de gagner. Le joueur compulsif gagne, mais il ne va pas partir avec l'argent. C'est un peu comme dans les anciens flippers, on gagne des parties gratuites. C'est-à-dire qu'il va rejouer les sommes qu'il a gagnées. Parce que justement, comme le disait Sophie, ça me permet de rester dans un état d'excitation que grâce à l'argent que je gagne, je peux entretenir.
Mais en même temps, quelqu'un qui joue quelques petites sommes, qui ne met pas en péril l'argent du ménage et qui trouve sa satisfaction dans le fait de jouer, par exemple, au tiercé toutes les semaines, on en connaît plein, il ne gagne jamais, mais c'est pas grave, il joue, c'est le plaisir d'aller dans un bistrot, de pouvoir faire sa carte de jeu. Sophie Nicole, c'est vraiment répréhensible ça?
Alors, c'est toujours la même question finalement. À quel moment donné on dit c'est une addiction, c'est un problème? C'est toujours les mêmes critères en fait. Quand vous devez augmenter la dose pour avoir la même excitation, quand ça envahit votre vie au point que finalement il y a des tas d'autres activités que vous ne faites plus parce que vous ne faites plus que celle-ci, quand vous commencez à avoir honte ou de la culpabilité, quand vous commencez à oser pratiquer des jeux que vous ne faisiez absolument pas avant, et puis quand vous réalisez que vous utilisez ça pour vous calmer, pour vous évader, pour vous désinhiber, ben là, effectivement, on commence à entrer dans les problèmes. Donc oui, il y a des tas de gens qui jouent à la petite semaine et qui n'ont absolument pas une addiction, et tous les joueurs ne sont pas des gens qui ont une addiction, comme toutes les personnes qui boivent un verre de vin ne sont pas des alcooliques. On est totalement d'accord là-dessus. Néanmoins, comme le disait bien mon camarade, il y a beaucoup, beaucoup de couples dans lesquels on se retrouve à ne pas oser parler de ça, justement, parce qu'on le banalise jusqu'au jour où on se retrouve avec les huissiers à la porte, jusqu'au jour où on se retrouve avec, comme le dit très bien dans le témoignage de Paul, je me suis rendu compte que j'étais malade le jour où j'ai reçu mon salaire et que ce jour-là, je l'ai entièrement joué. Donc on est le premier du mois, je n'ai plus un centime pour aller jusqu'à la fin du mois.
Confirmation avec son témoignage, Paul. 46 ans dépendance au jeu, son témoignage.
Ça a commencé après ma séparation, après un divorce. Je suis allé une fois au casino, j'ai joué 3 pièces et j'ai gagné. Et après, c'est parti. Vraiment, le truc, c'est que j'ai commencé à jouer, c'était pour parce que je me suis endetté avec le divorce, quand c'était assez compliqué. Et je pensais vraiment, comme tous les joueurs peut-être, de récupérer une certaine mise, et puis comme ça, mes ennuis étaient finis, mais ça passe pas comme ça. J'ai joué pratiquement tout ce qu'on peut jouer, où on peut gagner de l'argent. Tactilo, les bien gratter, évidemment, ça peut aller très vite, hein. On peut gratter pour 2 francs, mais on peut gratter pour 100, 200, 300. Et on est tellement sûr qu'on va gagner que, de toute façon, même si on perd 200, 300 balles, de toute façon, on va les récupérer, ça c'est sûr et certain. Et puis, non. C'est pas comme ça. Je me disais, c'est pas normal, c'est pas juste, quoi. Je crois pas que j'ai fait quelque chose de faux dans ma vie, donc, de toute façon, la chance, elle va être là, quoi. Elle est pour moi aussi, quoi. J'ai failli tout perdre, par chance, j'ai pas perdu mon travail. Par contre, social, privé, amoureux, tentative suicide, j'ai pratiquement tout perdu. Je me suis rendu compte, c'est quand j'ai reçu ma paye et que j'avais tout dépensé en une fois, quoi. Alors là, c'était terrible, quoi. Et j'ai tout perdu, évidemment. Alors là, j'ai dit non, faut que tu te fasses soigner, quoi, ça va pas, quoi. Cette sensation de dire, ouais, de toute façon, je vais gagner. Et on joue, puis tout d'un coup, 1000, 2000, 3000 francs qui sont passés, et puis il n'y a plus rien. Et puis après, c'est le cercle vicieux, commencer à voler, il faut commencer à mentir. Alors j'ai déjà remarqué un truc, c'est les parents qui font gratter des billets à des enfants. Je trouve ça terrible. Parce que je pense que c'est la meilleure façon pour devenir addict à ça, quoi. Et puis, depuis que je ne joue plus, je peux faire des repas avec mon ami, je suis parti en vacances, je suis 10 fois mieux, quoi.
Le témoignage de Paul, 46 ans. Gérard Decrin, qu'est-ce qui caractérise fondamentalement le trouble concernant les achats compulsifs ou le jeu ?
Alors j'ai dit, il y a le rapport à l'argent. L'argent, c'est un média, hein, dans notre société. Il y a une sorte de trip là autour. Et c'est comment je peux atteindre mon stade d'excitation, soit en achetant, soit en jouant. Et c'est également, il y a des addictions plus lentes, mais ça c'est une addiction très rapide. Parce que quand dans la machine à sous, la personne attend les 3 trucs, elle a 1, le 2 et le 3e, le moment où ça sort, c'est juste inouï comme impression. Bon, moi je ne suis pas addict au jeu, mais je veux dire...
Même sensation à la roulette également ?
Oui, oui. Mais les jeux, les slots, ce qu'on appelle les machines à sous...
Les bandits manchots.
Voilà. C'est assez typique.
Oui, puis il y a juste à tirer le levier jusqu'à ce qu'il y ait l'argent dans la machine, en fait.
Exactement. Mais il y en a même qui vont très loin, excuse-moi. Il y en a même qui vont très loin. Moi, j'ai vu ça dans un casino à Montana, où la patiente, elle venait tous les jours jouer et tout. Elle habillait sa machine. Elle mettait une sorte d'habit. C'est-à-dire que la machine est devenue une sorte de...
De personnes, de liens,
etc.
Vous disiez également quelque chose de très intéressant sur cette addiction au jeu. Il y a 2 aspects, si on veut comparer ça à des drogues, par exemple, mm-hmm. au niveau des sensations.
Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a l'effet, héroïnogène, je ne sais pas si c'est un terme correct, mais c'est-à-dire où le but, c'est de faire baisser la tension et de se retrouver plutôt calme. Et puis, il y a l'autre effet qui est un effet cocaïnogène, si je peux dire, où on va rechercher un effet d'excitation maximale, qui est beaucoup plus rapide aussi. On monte très vite, puis après, bien sûr, il y a la descente, comme dans toutes les addictions, hein, il y a les descentes avec tout. Quand tu as parlé de la honte, entre autres, dans toutes les addictions, on retrouve ça.
Sophie Nicole.
Absolument. Hein. Je pense que c'est important de réaliser que tout le monde ne joue pas de la même manière et tout le monde ne joue pas au même jeu. Il y a les jeux de rôle sur Internet, des jeux en ligne, où là, on se crée un personnage et puis finalement, on n'est pas très heureux dans sa vie, mais on est un personnage extraordinaire, qui a une vie extraordinaire et plein plein d'amis. Et du coup, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant de vivre sa vie dans son jeu et son personnage que de vivre sa vraie vie. Ça, c'est une grosse dépendance aussi. Après, il y a les jeux, comme on le disait, la machine à sous, qui est beaucoup pratiquée par les femmes parce que ce jeu-là est un jeu très hypnotique qui permet de totalement s'évader. Et puis, il y a aussi cette notion du jeu comme les courses de chevaux où là, on va chercher l'adrénaline, on va chercher le pic. Donc, on se rend bien compte à quel point, finalement, le jeu peut toucher des tas de domaines différents que toutes les substances ne touchent pas à elles, par contre. Hein. On peut vraiment, avec le jeu, s'évader. On peut obtenir l'adrénaline. On peut obtenir le rêve. On peut obtenir l'effet calmant. Donc, il y a vraiment... Le jeu répond à beaucoup de niveaux différents.
Comment peut-on s'en sortir, Gérard Decrin ? Il y a la possibilité, notamment pour les casinos, de se faire interdire d'établissement, oui. Mais il reste encore beaucoup de choses, hein,
alors,
Internet
oui,
notamment.
Oui. Bon, moi j'ai fait de la formation de croupier, d'employé de casino, de merin et à Montana. Alors bien entendu, il y a un plan, il y a une loi qui indique que tous les casinos se doivent d'avoir un plan social le cas où, c'est-à-dire de repérer le joueur qui exagère, etc. Et en même temps, il y a toute une procédure à partir de ça, l'interdiction, enfin, etc. Mais dans la pratique, ça se passe malheureusement pas comme ça, ou pas toujours comme ça, étant donné que les casinos, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Donc, une fois, il y avait un qui avait posé un président de casino en disant « Mais si je veux gagner, qu'est-ce que je dois faire ?» Et il lui a répondu « Soit tu joues pas, soit tu achètes le casino. Là, tu vas faire de l'argent. » C'est un peu cynique, mais c'est pas faux, parce que, effectivement, les gens perdent en général. Il y a des gens plus chanceux que d'autres, mais les gens en général perdent.
Ça, c'est l'affaire du casino. Et puis, pour ce qui concerne les jeux sur Internet, par exemple, ou même encore les achats compulsifs, cette notion liée à l'argent, Sophie Nicole, on s'en sort comment ? On va en Afrique profonde, on fait comment ?
Non, bah, comme l'a très bien expliqué Vanessa et Paul, c'est tout un travail en fait où il va falloir d'abord reconnaître et comprendre le système. Puis ensuite, quels sont les actes de santé que je vais pouvoir pratiquer pour moi ? C'est-à-dire comment je vais me faire un peu plus de place dans ma vie ? Comment je vais mettre un peu plus de vie dans ma vie pour être un peu plus heureux et me sentir un peu mieux ? Donc du coup, avoir moins besoin de consommer. Puis ensuite, effectivement, comme il l'explique très bien, c'est toutes ces attitudes, bah, je ne sors plus avec de l'argent. J'ai coupé mes cartes de crédit, je demande à telle personne de faire tel achat pour moi. Donc effectivement, au début, c'est un accompagnement assez important. Et puis effectivement, après, c'est toute la réparation sur la honte et la culpabilité, parce qu'il faut rembourser les dettes. Hein. Donc ça, émotionnellement, c'est très très lourd. Il faut savoir qu'il y a des familles qui ont tout perdu. Des gens qui sont vraiment dans des situations très dramatiques. Et mon camarade le disait bien tout à l'heure, ça peut pousser pas mal d'individus au suicide. C'est quand même vraiment très grave.
Une particularité au jeu, c'est que quand on commence à agir, c'est souvent tard. Parce que le patient, d'une part, ne se sent pas addict, mais il se sent dans une souffrance extrême. Et c'est au moment où il y a un passage à l'acte que là, peut-être, on peut rentrer en matière. Alors que pour d'autres addictions, y compris les addictions à l'héroïne ou à la cocaïne, les patients viennent plus vite. Donc ça, c'est particulier au jeu, ce qui fait qu'il y a cette histoire entre entre la thérapie et le monde du joueur. Quoi. Le joueur ne se sent pas pathologique. Le joueur, même, on avait fait dans une institution, on avait fait un groupe de joueurs. C'était vraiment le club. C'est-à-dire qu'ils voulaient. Alors on le faisait à 7h, de 7 à 8h30, et eux ne voulaient pas être mélangés avec d'autres gens qui ont d'autres addictions. C'était assez intéressant quoi, de voir ça. Maintenant, il y a aussi la recherche, mais ça, c'est tout, je pense, c'est toutes les addictions. C'est la recherche d'une sorte de monde virtuel. Quand tu parlais des joueurs, particulièrement des adolescents, qui vont rechercher des jeux de rôle où ils vont se faire des amis, ils peuvent même tuer quelqu'un, hein, ça va jusque-là. Donc, mais ça, c'est la virtualité. La réalité, c'est autre chose. Or, ils essayent d'obtenir dans la virtualité quelque chose qui est impossible pour eux à obtenir dans la réalité. Ce qui pose également pas mal de problèmes.
Nous traitions aujourd'hui des achats compulsifs et du problème lié au jeu avec Gérard Decrin, systémicien, et Sophie Nicole, psychologue et directrice de la clinique Belmont. Merci à tous les deux. Vous pouvez réentendre cette émission sur notre site internet www.radiocité.ch, la page Cité Addict, et nous poser également toutes vos questions de façon anonyme. Excellente journée sur Radio Cité Genève.
Cité Addict.